allons débuter la première séance du cycle critique des pratiques sociales. Le camarade qui va engager la discussion de ce soir, c'est le camarade Jean-Marie Brome. Certains peut-être le connaissent, enfin il a fait beaucoup de travail sur l'ensemble des questions qu'on discute. Il est directeur de la revue Quel Corps, dont je vois qu'il a amené ici d'ailleurs un certain nombre d'exemplaires, je suppose que c'est pour les vendre. Et il est militant de l'école émancipée, la tendance révolutionnaire du mouvement enseignant français. Je lui donne la parole tout de suite.
Ce sera un exposé didactique, je veux dire par là qu'il sera nécessairement simplifié, parfois schématique, mais c'est pour permettre de rappeler un certain nombre de points de méthode qui nous permettront d'ouvrir un débat. C'est ça qui est important, je crois. C'est une réflexion collective à travers un débat libre et démocratique sur ce qui attend aujourd'hui le mouvement ouvrier par rapport à des tâches spécifiques en ce qui concerne la critique de la société bourgeoise et de ses institutions. Donc je ne traiterai pas tout nécessairement. Il y a d'abord un premier point que j'appellerai lutte de classe et matérialisme historique. Depuis que le mouvement ouvrier existe, eh bien, il s'est donné, avec l'avènement du marxisme, une arme théorique, qui est le matérialisme historique, qui est une méthode scientifique d'analyse d'une formation sociale donnée, du capitalisme, bien, et de ses contradictions. Et je crois donc qu'on ne peut pas faire l'économie de l'appropriation théorique du matérialisme historique si on veut avoir une politique scientifique, ce que Marx et Engels ont toujours appelé le socialisme scientifique, opposé aux variétés utopiques du socialisme, utopique au mauvais sens du terme, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il faut réhabiliter l'utopie. Donc une méthode d'analyse scientifique de la société appelée socialisme scientifique, aussi parfois appelée matérialisme historique. J'insiste là-dessus parce qu'on ne peut pas mener la lutte ouvrière en fonction des intérêts de classe du prolétariat si on n'est pas armé d'une théorie scientifique. Ça, je crois que c'est très très important, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui où, précisément, certains courants dans le mouvement ouvrier, ou a fortiori certaines tendances de la bourgeoisie, ont tendance à dénier, à la science, encore que vous verrez dans les débats ultérieurs sur la science, que les choses ne sont pas aussi simples. Mais disons, certaines tendances de la bourgeoisie cherchent à décrier la science et à revenir à une espèce d'irrationalisme, d'obscurantisme, dont vous voyez fleurir tous les jours sur la presse, à la radio, dans les masses médias en général, bon, l'idéologie. À bas la science. Je rappelle simplement que tous les mots d'ordre réactionnaires, tous les mouvements fascistes, ont toujours crié « à bas la science » ou « à bas la théorie ». Et ceci pour dire que dans le mouvement ouvrier révolutionnaire, il y a toujours eu une tendance, le marxisme en particulier, ses différentes variétés, à considérer que la lutte ouvrière doit être menée d'après une théorie scientifique. Comme le dit, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Et je crois que pour ce qui concerne l'objet propre de ce cycle, la critique des pratiques sociales, il faut aussi avoir une théorie révolutionnaire. Et c'est ça le problème. C'est que précisément, aujourd'hui, ce qui est en question, c'est que dans le domaine des superstructures, dans le domaine de l'analyse des valeurs, de la morale, du droit, de la famille, de l'art, etc., on ne dispose pas, comme par exemple, pour l'analyse du capitalisme, d'une méthode aussi précise, aussi universellement admise que peut l'être le marxisme. Autrement dit, il y a une carence relative, je dis bien relative, du marxisme dans le domaine de toutes ces questions-là qui nous intéressent. L'art, par exemple, la morale, simplement les questions de la mort, de la vie quotidienne, de la sexualité, etc. Effectivement, c'est le deuxième point, c'est ce que j'appellerais, moi, la crise du marxisme dogmatique, et plus spécifiquement du marxisme stalinien. Vous savez que pendant des années, les militants du Parti communiste ou de l'Internationale communiste ont été formés par divers opuscules de Joseph Staline, et en particulier par un petit opuscule qui s'appelait « Matérialisme dialectique et matérialisme historique », qui était d'une sécheresse absolument considérable, un dogmatisme inouï, et qui a tari la recherche scientifique, l'élaboration théorique et la réflexion collective pendant des années. Bien. Où on se contentait, dans le mouvement ouvrier officiel, de répéter des formules stéréotypées, et notamment dans le domaine de la famille, je le répète, du sport, de l'art, etc. Or, aujourd'hui, je crois qu'il faut lutter contre deux déviations possibles. D'une part, le dogmatisme, et d'autre part, j'aime pas ce terme, mais je vous le donne, le révisionnisme. Parce que ce terme a une connotation à certaines, disons, résonances qui sont employées par des courants politiques, qui signifient en général autre chose. Révisionnisme, ça veut dire, au sens fort du terme, l'abandon, au sens par exemple où l'emploie Rosa Luxembourg, l'abandon des principes essentiels de cette arme scientifique qu'est le marxisme ou le socialisme scientifique. Par exemple, quand Rosa Luxembourg polémique contre les premières tendances réformistes, Bernstein, par exemple en Allemagne, du mouvement ouvrier, elle les qualifie de révisionnistes parce qu'ils révisent la théorie fondamentale de Marx dans des questions essentielles, ne serait-ce que par exemple la question de l'impérialisme, la question de la violence révolutionnaire, la question de la lutte des classes, la question de la dictature du prolétariat, on peut en discuter, hein, c'est ces questions-là, mais c'est à l'époque de Rosa Luxembourg, la question surtout de l'intransigeance de classe par rapport à la bourgeoisie. Dogmatisme. Pourquoi ? Précisément le dogmatisme, c'est une tendance qui concerne à peu près tous les courants du mouvement ouvrier pendant des années, qui se sont, je le répète, que ce soit la 4e internationale, que ce soit le courant maoïste, que ce soit le courant stalinien ou d'autres courants, bien, qui sont contentés de répéter des formules sans essayer de s'approprier la réalité nouvelle, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passait autour d'eux, pour mieux pouvoir comprendre et surtout pour mieux pouvoir agir. Je vais vous donner une citation d'Engels qui prouve que dès cette époque-là, les fondateurs du matérialisme scientifique, pardon, du matérialisme historique, étaient conscients des dangers du dogmatisme. En 1890, Engels écrit ceci dans une lettre. La conception matérielle de l'histoire a maintenant, elle aussi, une quantité à qui elle sert de prétexte pour ne pas étudier l'histoire. C'est ainsi que Marx a dit des marxistes français de la fin des années 70, tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Marx voulait dire par là qu'il n'avait rien à voir avec ces gens-là qui se contentaient de répéter ses propres formules. Et Engels poursuit, notre conception de l'histoire, le matérialisme historique, hein, est avant tout une direction pour l'étude et non un levier servant à des constructions. Il faut réétudier toute l'histoire, il faut soumettre à une investigation détaillée les conditions d'existence des diverses formations sociales avant d'essayer d'en déduire les conceptions politiques, juridiques, esthétiques, philosophiques, religieuses, etc. Sur ce point, on a fait jusqu'ici peu de choses, parce que peu de gens s'y sont attelés sérieusement. Sur ce point, nous avons besoin d'une aide de masse. Le domaine est infiniment vaste. Et celui qui veut travailler sérieusement peut faire beaucoup. Mais au lieu de cela, les phrases vides sur le matérialisme historique ne servent pour un trop grand nombre de jeunes, à cette époque-là c'était des Allemands, mais ça peut être en France ou en Italie, qu'à un trop grand nombre de jeunes qu'à faire le plus rapidement possible de leur propre connaissance historique relativement maigre, une construction systématique artificielle. Je crois que c'est très important ça, parce que ça, c'est aussi une des explications de la crise du mouvement ouvrier français particulièrement, ou la crise du mouvement ouvrier en général. Le deuxième point, c'est contre l'éclectisme, ou contre le révisionnisme. C'est-à-dire contre une conception qui aurait tendance à diluer cette arme théorique dans des apports étrangers, un peu de religion, un peu de métaphysique, un peu de ceci, etc. toute proportion gardée, et sans vouloir faire de polémique inutile, c'est un peu ce que fait aujourd'hui Roger Garaudy. Bien. C'est-à-dire quelque chose qui, parce que précisément Garaudy a été confronté au dogmatisme stalinien, eh bien Garaudy tord le bâton dans l'autre sens, étant la main aux catholiques, sans, comment dirais-je, de manière totalement acritique, surtout sur le plan de la méthode, sur le plan de la conception du monde. Ou par exemple, François Mitterrand, qui explique qu'il est un peu de Marx, un peu de Jaurès, un peu de ceci, un peu de cela. Bon. Et ça, c'est aussi une manière de ne pas vouloir aborder réellement l'étude qui nous environne. Bien. Ça, c'était, disons, un préambule qui me paraît nécessaire, parce que vous verrez que dans le cours du débat, et surtout dans le cours des leçons, enfin, des débats qui sont faits ultérieurement, il y aura des points de vue totalement, ou parfois réellement divergents, contradictoires, même antagonistes. Et je crois que c'est ça qui est la richesse aujourd'hui. C'est le libre et fraternel débat sur des questions qui ne sont pas tranchées. Par exemple, sur l'art. Je ne pense pas que sur l'art, on puisse avoir une position tranchée sur la culture en général, sur la vie quotidienne, etc. Troisièmement, ou troisième point, je ne sais pas où j'en suis exactement. Aujourd'hui, ces questions-là nous concernent aussi parce que nous sommes confrontés à une crise générale des institutions bourgeoises, essentiellement depuis mai 68. Bien. Et que de ce point de vue-là, que nous le voulions ou pas, nous sommes, par le mouvement de masse qui se déroule sous nos yeux, confrontés premièrement à une redéfinition des objectifs de lutte, et deuxièmement, une redéfinition des méthodes de lutte. Simplement, quelques exemples, l'affaire Lip, la lutte des femmes, la lutte des soldats, le Larzac, la lutte pour l'avortement, etc., etc. Bien. On prouvait que le mouvement ouvrier ne pouvait plus se contenter d'objectifs traditionnels, qui étaient, par exemple, la nationalisation, la socialisation des moyens de production, la prise du pouvoir en général. C'est qu'aujourd'hui, les gens prennent conscience qu'ils luttent aussi pour une autre société, mais aussi pour une autre vie quotidienne, d'où le mot d'ordre « changer la vie ». Et deuxièmement, redéfinition des méthodes de lutte. On ne lutte pas aujourd'hui, notamment dans le secteur qui nous intéresse, les superstructures idéologiques ou la vie quotidienne, de la même manière qu'on pouvait lutter, par exemple, il y a 30-40 ans. Prenez simplement les questions du Front populaire, où pour la première fois est apparue la question des loisirs, la question du temps libre, voire même la question du sport et de l'éducation physique. Bien, et aujourd'hui, après mai 68, comparez l'extension du champ de lutte, ce qu'on appelle encore une fois, dans l'extrême-gauche révolutionnaire, la naissance de nouveaux fronts de lutte. Et aujourd'hui, sur les objectifs, sur les moyens de lutte, un mot d'ordre comme l'autogestion socialiste prouve bien que les gens se posent la question d'un autre système social généralisé qui concerne non seulement la production, la consommation, l'échange, mais aussi la famille, la vie quotidienne, la culture, les loisirs, l'art. Allons un peu plus loin, et c'est, disons, le centre du débat aujourd'hui, et de l'exposé par eux-mêmes. La crise générale de la société, ou de l'impérialisme, disent certains. Crise généralisée de la société bourgeoise. Ça veut dire quoi? Et depuis mai 68, parce que je pense que, on reviendra tout à l'heure dans le débat, je pense que la grande fracture, en France tout au moins, mais je pense que c'est valable pour toute la période historique, c'est mai 68. Alors, bien entendu, il ne peut pas être question ici de faire une analyse de tout ce qui est nouveau J'aimerais simplement dégager certains traits typiques, des invariants, qui restent pour toute la période, non seulement en France d'ailleurs, mais dans d'autres pays. C'est premièrement le mouvement révolutionnaire, le mouvement des masses en général, appréhende la lutte politique comme une totalité concrète. C'est ce que les bourgeois appellent le gauchisme généralisé. Plus concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune militant, un jeune travailleur qui vient à la lutte politique sent intuitivement que cette lutte politique, que sa lutte qu'il mène dans l'entreprise, dans un lycée, dans une faculté, à l'armée ou ailleurs, concerne l'ensemble des problèmes sociaux. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de séparation abstraite entre les divers domaines de la vie sociale. Ce qui a été longtemps le cas du mouvement ouvrier, qui s'est contenté d'une vision restrictive de la lutte politique. Depuis mai 68, encore une fois, le mouvement de masse est gauchiste, entre guillemets, au sens où il appréhende immédiatement la totalité des phénomènes. En d'autres termes encore, il y a une espèce de sensibilité qui fait que les gens se posent toutes les questions à la fois, y compris des questions qui jusqu'à présent étaient considérées comme des questions métaphysiques. La question de la mort, la question du bonheur, la question des relations sexuelles, la question du couple, qui, en apparence, je dis bien, ne sont pas immédiatement des questions politiques. Ça ne concerne pas directement le jeu des partis, la lutte syndicale, les revendications, etc. Je crois, au moins pour l'Europe capitaliste avancée, il me semble que c'est une tendance historique d'ensemble, je crois que cette sensibilité globale, cette vision totalisatrice, encore une fois ce que les bourgeois appellent le gauchisme, hein, qui est l'horreur absolue d'ailleurs pour eux, pour certains, ou d'ailleurs aussi pour certaines tendances du mouvement ouvrier, bien, que ce gauchisme-là nie, attaque globalement, frontalement, l'ensemble des sociétés, de la société bourgeoise et des institutions à laquelle ce mouvement de masse est confronté. Prenez aujourd'hui qui se radicalise et qui vient à la lutte politique, eh bien, il met en cause, dans un même mouvement et quasiment spontanément, le sport qu'on lui inculque à l'école, la famille où il s'emmerde radicalement, les relations familiales qu'il vit, bien, y compris le travail en usine, l'école, l'armée, etc., etc. Voire même, ce qui d'ailleurs pose un autre problème politique, voire même la lutte politique classique. Bien. Les partis traditionnels, les syndicats traditionnels. Et ça, c'est un phénomène dont on doit tenir compte avec le plus de précision possible et d'attention possible. Deuxièmement, autre tendance, disons structurale, hein, ou invariante. Deuxièmement, depuis mai 68, j'ouvre encore une parenthèse, pour vous donner un autre exemple de ce phénomène global. Quand des gens occupent des espaces verts, quand ils demandent des crèches, quand ils en ont marre de se faire lourder d'un immeuble, etc., etc., prenez toutes les luttes sur les quartiers, etc. Je dis, c'est une appréhension globale des problèmes politiques, qui est différente de ce qui existait auparavant. Deuxièmement, depuis mai 68, la société, on peut, disons, la représenter par une image, est une marmite en ébullition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des effets de boule de neige qui traversent, ou disons la contestation, traversent successivement, depuis mai 68, et quasiment comme un phénomène d'avalanche, boule de neige, toutes les institutions. L'ensemble de la société bourgeoise est en crise, d'où le terme de crise généralisée de la société bourgeoise, parce que les unes après les autres, les institutions bourgeoises ont été traversées par la contestation, la lutte des classes, la remise en question. Inutile de vous dire que, par exemple, je pense que la plupart des gens ici ont vécu mai 68, que lorsque les gens ont occupé l'Odéon, la Sorbonne, voire même certains footballeurs ont occupé le siège de leur association, etc., etc. Les unes après les autres, par conséquent, les agents sociaux se sont posés la question de la finalité, des objectifs, du sens, de la signification des institutions dans lesquelles ils vivaient. L'armée, la police, la justice, la magistrature, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, le sport, etc., etc. Vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui une seule branche de la société, une seule institution, un seul appareil d'État, une seule, d'un terme plus général, une seule couche superstructurelle qui ne soit en crise. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que chaque moment de la crise retentit sur les autres aspects. Il y a un aspect de combinaison de la crise. La crise de la famille retentit sur l'école, laquelle retentit sur l'armée, laquelle retentit sur l'entreprise, etc. Il y a aujourd'hui, par exemple, pour prendre qu'un exemple qui nous concerne tous, en tant que militants des mouvements ouvriers, une crise formidable de l'usine capitaliste. D'où les tentatives de la bourgeoisie, par exemple le rapport Sudreau, de replâtrer l'entreprise capitaliste. Bon. D'où aussi les tentatives de la bourgeoisie de replâtrer l'armée bourgeoise. Bien. De donner une réponse à la crise institutionnelle du sport de compétition, du mouvement olympique. De sens différent à la famille. Vous connaissez tous les déclarations de Pompidou sur la famille, expliquant que c'était un grand malheur, que la famille bourgeoise était absolument contestée. Or, comme chacun sait, depuis des décennies, voire des siècles, hein, peut-être pas des siècles, disons, mais en plusieurs dizaines d'années, la famille, comme le disent tous les théoriciens bourgeois, est une cellule de base. La notion même de cellule devrait nous faire réfléchir, dans la mesure où la bourgeoisie conçoit la société, semble comme un espèce d'organisme où il y a des cellules. Bon. Et d'où toutes les métaphores, disons toutes les images de cancer, de subversion, de virus, de microbes qui gagnent une à une les cellules de la société. Vous pouvez voir ça tous les jours, prenez les journaux réactionnaires, du Parisien libéré à l'Aurore, à la minute bien entendu. C'est vraiment le cancer qui ronge la société, qui grignote les cellules les unes après les autres, qui détruit nos institutions, et notamment les deux institutions princeps, la famille, l'armée. Bien. Et c'est cet effet de boule de neige qui panique la bourgeoisie. Parce que tout part à volo. Tout part à volo. Et ce n'est pas faire du catastrophisme. Je dis, il y a un camarade qui un jour à Vincennes a parlé de révolution lente. Et ce n'est pas une conception préformiste. Il veut dire par là qu'il y avait un processus de grignotage révolutionnaire des institutions qui minait de l'intérieur la société bourgeoise. Autrement dit, il s'opérait un travail de sape. Vous connaissez tous la formule de Marx, bien creuser la vieille taupe. Hein. Un travail de sape dans toutes les institutions. Aujourd'hui, par exemple, on voit le syndicat de la magistrature, qui se pose des questions absolument, à la limite même radicales, puisque récemment, un juge vient d'inculper l'encadrement et le patronat pour une histoire d'accident du travail. C'est une chose assez exceptionnelle. Et vous voyez le retentissement que ça opère au niveau de la bourgeoisie. Bien. Au niveau des prisons, au niveau des hôpitaux psychiatriques, il y a eu vraiment des phénomènes absolument extraordinaires depuis 3, 4, 5 années, depuis mai 68. Pour revenir dans le débat. Mais je crois aussi, et ça pour des militants politiques responsables, il faut en tenir compte, je crois aussi que cet aspect de d'ébullition sociale qui touche toutes les institutions touche aussi le syndicalisme, y compris les partis politiques. Disons l'aspect même de partis politiques. Il y a une crise, je pense, tout au moins, c'est un point de vue qui m'est personnel, mais je pense qu'on pourra en discuter, il y a aussi une crise du mouvement ouvrier, et y compris une crise du mouvement révolutionnaire, dans ses formes d'organisation institutionnelle. Vous savez que, par exemple, ce qu'on appelle le gauchisme ou le spontanéisme ou tout ce qui a été qualifié un peu de déviant, d'anarchique, etc., prouve que ce n'est pas uniquement des agents provocateurs de la préfecture de police, comme certains auraient trop tendance à le croire, mais ce sont aussi des jeunes qui refusent, y compris, les formes traditionnelles de lutte politique et d'organisation politique. Et je dis, c'est une question qui est grave, parce que ça pose des questions fondamentales. C'était le deuxième point qui, à mon avis, est pertinent pour tous les domaines qui seront abordés d'ici tout le cycle. Le troisième point, c'est, à mon avis, une tendance historique fondamentale, c'est la révolution scientifique et technique. La révolution scientifique et technique. Le mode de production capitaliste aujourd'hui, encore une fois, je suis obligé d'un tout petit peu de schématiser, hein. Le mode de production capitaliste aujourd'hui repose fondamentalement sur la science et la technologie. Et penser, comme le prétendent d'ailleurs certains courants du mouvement ouvrier, penser que les forces productives ne se développent plus, penser qu'il y a un catastrophisme généralisé, bref, que le capitalisme est en train de s'écrouler spontanément, qu'il n'est plus capable de se développer, plus capable de développer les forces productives, c'est une erreur fondamentale. Bien. Le capitalisme a développé de manière assez considérable les forces productives sous un aspect particulier, qui est la technologie de pointe, et notamment l'introduction délibérée, voulue, systématique de la science, des scientifiques, dans le processus de mise en œuvre ou de création de la plus-value. Ça sera un aspect qui vous sera traité, je suppose, dans les cycles économiques. Autrement dit, comme l'avait d'ailleurs prévu Marx, des années 1850, la science elle-même devient une force productive directe. Où Marx dit que la science est réintégrée directement dans le processus de production. Mais la science est réintégrée non seulement dans le processus de production, mais dans l'ensemble des institutions de la société bourgeoise, y compris l'entreprise, bien, y compris l'État, y compris le droit. Et on prendra des exemples tout à l'heure. Et cela signifie un changement fondamental par rapport au développement même du capitalisme. Pour prendre que deux tendances. Premièrement, il y a un aspect cumulatif considérable des connaissances dans tous les domaines, y compris, encore une fois, dans le domaine qui nous intéresse, celui des superstructures, le développement des sciences humaines, psychanalyse, sociologie, sciences de l'organisation, sciences de l'administration, le managering, la science de la publicité, etc., etc. Toutes ces sciences-là, qui sont des sciences directement annexées au processus de production capitaliste, qui permettent à l'entreprise de mieux fonctionner, aux bourgeois de mieux vendre, ou de mieux manipuler les masses, ces sciences-là humaines, elles-mêmes ont connu un développement scientifique considérable et un processus cumulatif de connaissances. Aujourd'hui, il est difficile pour des militants marxistes de ne pas tenir compte de cet aspect-là. Un militant révolutionnaire en général d'ailleurs, qui ne connaîtrait pas un minimum de sociologie, un minimum de psychologie, un minimum de psychanalyse par exemple, ne peut même plus penser, parce que précisément ce sont devenus des armes de la bourgeoisie. Et que ces armes-là, il faut les connaître pour pouvoir éventuellement les démonter. Et pour prendre encore une fois des exemples, lorsque l'État bourgeois aujourd'hui et cybernétiser. Lorsque, par exemple, notre cher ministre Poniatowski est en train d'utiliser de manière consciente, voulue, les systèmes d'ordinateurs, les fichiers électroniques, etc., etc., qu'est-ce que ça signifie? Sinon, la réintroduction de la science, d'une technologie de pointe scientifique, dans l'utilisation de la répression, du fichage systématique des citoyens. Vous connaissez tous, je suppose, le projet Safari, de mise en fiche des citoyens. Voilà pour l'État. Je ne parle même pas du perfectionnement scientifique ultra sophistiqué du matériel de répression. Tous, vous avez sans doute eu affaire à l'appareil répressif d'État. Vous vous êtes rendu compte que vraiment, ils se sont modernisés. Bien. Mais ça, c'est l'aspect visible de l'iceberg. Tout ce qu'il y a derrière, toute l'infrastructure technologique, scientifique, Dieu merci, ne sont quand même pas non plus organisés comme un laboratoire scientifique. Il y a des contradictions dans l'appareil d'État. Mais je crois que ça, pour le mouvement ouvrier révolutionnaire, il est décisif de comprendre que l'appareil d'État bourgeois fonctionne de manière scientifique, en tous les cas beaucoup plus qu'il y a 30, 40, 50 ans, a fortiori au début du mouvement ouvrier. Prenez un autre exemple, l'administration. Eh bien, l'introduction de la science et de la technologie administrative, avec toutes les techniques qui ont été importées des États-Unis. Et malgré les contradictions absolument bureaucratiques, kafkaïennes, ubuesques de l'administration française, bien, on trouve que la bourgeoisie française est consciente de la nécessité de rationaliser son appareil d'administration et de gestion, non seulement des entreprises, mais même de l'administration, d'où tous les projets actuels de Il faut moderniser les fichiers, il faut rendre l'administration plus humaine, c'est-à-dire plus efficace, plus rapide. L'introduction des machines dans la gestion du personnel, des fichiers administratifs, etc. Les machines à écrire, vous n'avez qu'à voir la modernisation des PTT. Ce n'est pas uniquement pour le bien-être du public que les PTT, les télécommunications générales, sont modernisées. C'est une nécessité pour le développement même des forces productives bourgeoises et de la domination de la bourgeoisie, d'avoir des télécommunications rapides, fiables. Donc, vous voyez, les deux aspects contradictoires du processus. Et on pourrait prendre d'autres aspects, hein, y compris au niveau familial. Le fait, par exemple, de l'introduction d'une maîtrise scientifique technologique de la contraception, les pilules. Et malgré l'aspect contradictoire, réactionnaire d'une partie importante de la bourgeoisie qui a longtemps refusé le dos au mur d'admettre pour la femme la maîtrise scientifique de la reproduction, malgré cela, la bourgeoisie, peu ou prou, hein, ça dépend de l'état de la lutte de classe et des rapports de force, s'est rendu compte qu'il valait mieux, comme ils disent les bourgeois ou les bourgeoisies, planifier les naissances. Vous voyez encore une fois l'aspect technocratique des choses. Planifier les naissances, bref, rendre le couple plus heureux, introduire un aspect moins obscurantiste, irrationnel dans la vie de couple et de la famille, par le biais d'une maîtrise technologique, qui est la maîtrise de la reproduction de la vie, etc., etc. Je ne parle pas du sport, parce que là, on fera un exposé, je m'en chargerai d'ailleurs, spécifique là-dessus, mais y compris au niveau des loisirs. J'insistais longuement là-dessus, parce que je considère que c'est un des aspects qui est, en général, non pas dans le domaine de la production, parce que la notion de révolution scientifique et technique est assez communément admise par la plupart des mouvements révolutionnaires, sinon par les tendances dominantes du mouvement ouvrier, mais dans ce qui nous intéresse, les superstructures idéologiques, les gens ne voient pas l'effet direct de cette révolution scientifique et technique au niveau des institutions bourgeoises. Quatrième point, et ça je crois que c'est décisif, c'est le rôle capital de la jeunesse. Bien, certains théoriciens marxistes ont été jusqu'à expliquer que la jeunesse était la force révolutionnaire dominante. Ils reflétaient à leur manière un fait nouveau, c'est que depuis en gros le début des années 60, dans tous les pays du monde, sans exception, la jeunesse a été un facteur de renouveau révolutionnaire absolument considérable. Et notamment dans le domaine qui nous intéresse, celui des superstructures. Que ce soit la jeune génération de militants révolutionnaires en Amérique latine, au Vietnam ou ailleurs, que ce soit les jeunes contestataires en Allemagne, en Italie et bien entendu en France, la jeunesse a joué le rôle de réveil, entre guillemets, c'est une métaphore, du mouvement ouvrier, de détonateur des luttes sociales et, comme le dit Trotsky quelque part, de sang nouveau. Bien. En général, les orientations, disons, politiques traditionnelles dépérissent ou ont fait faillite lorsqu'elles n'ont plus la confiance de la jeunesse. Bien. Et au début des années 60, dans le contexte politique, disons, du stalinisme, d'une social-démocratie débile, la jeunesse a joué le rôle d'un substitut. Alors, stratégique ou tactique, on peut en discuter, d'un rôle de substitut au mouvement révolutionnaire. Ce sont les jeunes qui, les premiers dans les pays de l'Est, se sont affrontés à la bureaucratie, ce sont les jeunes qui, les premiers, se sont affrontés aux forces de l'ordre dans la plupart des pays capitalistes, qui ont posé des revendications nouvelles et qui ont joué le rôle, vraiment, prenez par exemple l'UNEF au moment de la guerre d'Algérie, puis tout le rôle de la jeunesse en mai 68, bien, ça a été vraiment quelque chose de massif, de dominant. Alors, bien entendu, c'est un autre débat, ça mériterait à soi, en soi, tout un exposé, pourquoi cette jeunesse a bougé. Je vous donne simplement comme fait, hein, pourra en discuter. Mais ce qui nous concerne, la jeunesse dans toutes les institutions, l'armée, la famille, l'école, le sport, la culture, l'art, l'entreprise. Bien, prenez les jeunes ouvriers, les plus combatifs ce sont les jeunes ouvriers. Bien. Donc cette jeunesse a été la plus combative, la plus radicalisée, et c'est elle qui a provoqué, entre autres, par ses aspirations à une vie nouvelle, par le ras-le-bol, comme on dit, hein. C'est une expression d'ailleurs qui est passée dans le langage courant, bien. Ce qui est d'ailleurs aussi un signe de l'influence de la jeunesse. Donc par son ras-le-bol, la jeunesse a été vraiment à l'avant-garde de toute une série de remises en question fondamentales de la société bourgeoise. Et ça, je crois que du point de vue politique, c'est capital, parce que ça pose au mouvement ouvrier en général la question d'une politique juste vis-à-vis de la jeunesse. Et aujourd'hui même par exemple, hein, les partis politiques de la gauche traditionnelle, les syndicats, se posent la question d'une politique vis-à-vis de la jeunesse, qui elle est la première touchée par le chômage, par exemple. Et pour le mouvement ouvrier révolutionnaire, ça pose la question d'une orientation politique juste qui permette, et ça je vous le donne à réfléchir là-dessus, qui permette de capter cette énergie révolutionnaire dans le sens de la lutte contre l'État bourgeois. Parce qu'il n'est pas dit que cette jeunesse s'oriente nécessairement et tout le temps par espèce de vocation. À gauche, on a connu les mouvements fascistes en particulier, c'est pour ça que je vous conseillais tout à l'heure de lire Reich, on a connu malheureusement une partie non moins massive de la jeunesse qui a rallié le fascisme. Bien. Et d'ailleurs, les fascistes ont toujours joué, tant Mussolini que Hitler, ou les hitlériens, sans compter les autres, bien entendu, ont toujours joué sur la démagogie de la jeunesse, en créant des organisations paramilitaires de la jeunesse, boy scoutisme, etc., les chantiers de jeunesse, enfin, vous connaissez ça. Hein. Ça, c'est une chose très importante. Il ne faut pas croire que la jeunesse a une vocation spontanée à gauche. Ça dépend d'un certain nombre de conditions politiques. Je dis que le rôle d'un mouvement ouvrier révolutionnaire, c'est de tenir compte de cet aspect-là et de capter cette énergie pour en faire une force politique contre l'État bourgeois. Cinquièmement, et je crois que c'est une formule de Maurice Nachman, je crois, c'est l'intervention de nouveaux agents sociaux. On expliquera ce que ça veut dire. L'intervention de nouveaux agents sociaux. C'est un terme assez général parce que là aussi on manque d'une théorie précise, de concepts clairs pour définir ce que c'est. Ça veut dire quoi? On s'est aperçu que des catégories sociales, j'emploie encore un terme qui n'est pas marxiste, qui est disons suffisamment vague, que des couches, que des groupes, que des communautés, que des gens en général, bien, entrent en lutte alors qu'auparavant ils ne le faisaient pas. Ou disons, ne le faisait pas de la même manière. Il a toujours existé, par exemple, un mouvement féminin, ou depuis fort longtemps, tout au moins, bien, y compris dans le mouvement ouvrier, parce que du temps de l'international communiste, par exemple, au deuxième, troisième et quatrième congrès, la question de l'international communiste, la question d'un mouvement féminin communiste de masse était posée, bien. Mais ce qu'il faut, par rapport à cette période-là, c'est qu'aujourd'hui, spontanément, disons, pour une grande majorité de femmes, il y a une prise de conscience de leur rôle, de leur statut, de leur oppression spécifique, de leur place dans la famille, dans l'entreprise ou ailleurs. Et ça, c'est une tendance massive, dominante, dans tous les pays capitalistes avancés. Et je suis même persuadé qu'on le retrouverait dans les pays dits socialistes. S'il n'y avait pas la censure, si on pouvait avoir une analyse plus précise sur le terrain. Les femmes. Alors bien entendu, les femmes, je dis bien, ce sont des agents sociaux, parce que parmi les femmes, vous avez des bourgeoises, vous avez des prolétaires, vous avez des paysannes, vous avez des étudiantes, vous avez des lycéennes. Bien, ce n'est pas un concept tout à fait clair. Bien, c'est une catégorie sociale. Je laisse le débat ouvert. Hein. Les chômeurs, y compris aujourd'hui, on voit des formes de lutte de chômeurs assez radicalisées. Les soldats, mais prenez l'armée portugaise, prenez en France, prenez y compris en Italie, et puis dans d'autres pays, on voit aujourd'hui les bidas prendre en charge une lutte de masse pour leurs droits démocratiques, pour leurs droits tout court. Ils en ont ras-le-bol d'être traités comme du bétail. Bien. Et parmi les soldats, encore une fois, il y a des intellectuels, des paysans beaucoup, des ouvriers, des travailleurs en général beaucoup, etc. C'est donc pas une classe sociale, au sens marxiste du terme, spécifique. Les soldats, c'est un ensemble d'agents sociaux, c'est une catégorie sociale. Les immigrés, je crois que c'est une chose fondamentale, que depuis une dizaine d'années, dans tous les pays capitalistes avancés, et ça aussi, je pense que ça vous sera traité dans les cycles de formation économique, où le rôle de la main-d'œuvre étrangère joue un rôle, enfin disons, est assez considérable dans les pays capitalistes avancés, eh bien ces immigrés-là décident, avec des formes spécifiques, embryonnaires parfois, ou parfois tout à fait violentes, de lutter contre l'oppression spécifique qui leur est faite dans les pays où ils se trouvent. Et pourtant aussi parmi les immigrés en général, c'est vraiment des gens complètement prolétarisés, complètement exploités. Bien. Un autre exemple qui vous fera encore mieux saisir cette notion d'agent social, les sportifs. Bien. Alors, Dieu sait si vraiment les sportifs en général sont crétins. Je vous précise tout de suite que moi je suis professeur d'éducation physique et donc je connais bien cette affaire-là, mais on voit aujourd'hui même des sportifs eh bien revendiqués, entrer en lutte. En mai 68, un certain nombre de footballeurs ont occupé le siège de la Fédération Française de Football. Il s'est créé un syndicalisme de footballeurs, il s'est créé un syndicalisme, de coureurs cyclistes. L'autre jour, dans l'Humanité, Cyril Guimard, que vous connaissez peut-être, qui était un grand champion, était un petit champion français, disons. Cyril Guimard a expliqué très concrètement comment il se faisait matraquer la gueule pour que Poulidor ou Marx gagnent par combine préconçue. Lui était chargé de faire les seconds rôles, ce qu'on appelle les lièvres de temps en temps. Il pédalait pour les autres. Eh bien, ça devient une tendance de masse dans le cyclisme aujourd'hui que les gens commencent à dire « il y en a marre, ras-le-bol », d'autant plus qu'il y a un chômage. Il y a un chômage qui s'introduit au niveau du sport professionnel. Bien. Vous avez vu, à propos de l'affaire espagnole, des joueurs de football de l'équipe de Bilbao qui ont porté un brassard noir en signe de deuil, bien, avec ce qui s'était passé en Espagne. Une équipe de rugby dans un petit patelin du sud de la France qui a dressé le point, etc., etc. Je dis donc, c'est un phénomène nouveau. À ma connaissance, tout au moins, je ne suis pas suffisamment âgé, disons, pour avoir ce qui s'est passé depuis 30-40 ans, mais je crois savoir que, disons, au niveau du sport, par exemple, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Bien, si ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, il y a une contestation, les Noirs américains qui lèvent le point, etc., etc. Ça veut dire, pour terminer ce chapitre-là, pour ouvrir le débat, que des agents sociaux prennent en main leurs propres affaires, y compris au niveau le plus élémentaire où ils se trouvent, dans un club de football, dans une famille, dans des entreprises, dans des fesses, etc., etc.
La première partie de cette cassette est terminée. Pour en écouter la suite, il vous suffit de la retourner.